Vous écoutez RTL.
8h17, Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, donc restez avec nous pour répondre à vos questions. Et Nicolas Sarkozy, c'est Madeleine qui va être la première à intervenir. Elle nous appelle de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Madeleine.
Bonjour messieurs. Et bonjour monsieur Sarkozy.
Ben voilà, bonjour Madeleine.
Bonjour. Ça va être très simple. Je voulais savoir pourquoi il y a tant de mépris, voire de haine, je dirais, vis-à-vis du Front National, alors que celui-ci représente quand même en France près de 30% de la population, dont je fais partie, je ne m'en cache pas. Maintenant, puisque au tout départ, j'avais voté pour vous, mais je suis extrêmement déçue de vous-même. Et je voulais savoir aussi, puisque je sache, monsieur Sarkozy, vous reprenez à votre actif quand même un grand nombre des idées du Front National. Alors, je pense que le fait de vouloir rester français en France, à mon avis, c'est absolument louable.
Nicolas,
je voudrais savoir pourquoi cette haine, ce mépris, ne serait-ce que de vous, dans les médias, de partout. Chaque fois qu'on interviewe quelqu'un du Front National, il est hyper méprisé. Je trouve ça scandaleux.
Nicolas Sarkozy vous répond, Madeleine.
Oh Madeleine, d'abord, ne croyez nullement que nous n'avons ni haine ni mépris. Ce sont d'ailleurs des sentiments qui ne devraient pas avoir leur place dans la République. Hein, Madeleine? Et par ailleurs, si vous avez écouté l'interview que j'ai eue avec Jean-Michel Apathy, j'ai dit que les leçons de morale ne s'appliquaient pas s'agissant de gens qui étaient inquiets pour le modèle de vie, pour leur capacité à vivre comme leurs parents leur avaient appris à vivre. Mais Madeleine, même si je vous ai déçu, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Réfléchissez. Et essayez de comprendre quelque chose. Le vote que vous avez donné à Madame Le Pen, il a servi à quoi? Ceux qui, comme vous, dans le Doubs, il y a quelques semaines, Madeleine, ont voté pour le candidat du Front National, à l'arrivée, ils ont eu quoi? Un député socialiste de plus. Il y a des tirs triangulaires, Madeleine. Au premier tour, vous avez fait le choix du Front National. C'est respectable. Mais au deuxième tour, Madeleine, confirmez dans une triangulaire le choix du Front National. Vous êtes des Bouches-du-Rhône. Et vous aurez le même président socialiste. Ça fait 8 décennies que dans les Bouches-du-Rhône, votre département, sont les socialistes au pouvoir. Vous voulez que ça continue? Votez pour le Front National. Dans mon propos, Madeleine, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mépris. Je tiens même compte de la déception à l'endroit de la droite républicaine en général, et de moi en particulier, Madeleine. Madeleine, quand vous me dites ça, vous tirez une balle dans votre propre pied. Vous voulez que ça change, Madeleine? Vous voulez que ça continue? Donc si vous voulez que ça continue dans les Bouches-du-Rhône, avec les socialistes, votez pour le Front National. Et je vous promets que vous garderez les impôts socialistes, les dépenses socialistes. Vous voulez que ça change? Votez pour nos candidats. Même avec toute la méfiance à mon endroit, avec toute la déception à notre endroit. C'est ça, Madeleine. Alors moi, je suis en situation de responsabilité. Mais vous aussi. Et chacun de ceux qui nous écoutent doit comprendre que son bulletin de vote a une importance. Voilà. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, il s'agit de construire l'avenir de notre pays, Madeleine. Vous me dites vouloir rester en France. Parfait. Vous voulez que ça continue avec M. Hollande ou vous voulez que ça change? Parce qu'avec M. Hollande, c'est sûr que ça continuera comme vous ne voulez pas, avec moi.
Merci.
Avec nous, il y a peut-être une chance que ça change.
Merci Madeleine de nous avoir appelé. On va essayer de prendre le plus grand nombre d'auditeurs.
Excusez-moi.
Si non, Nicolas Sarkozy, voilà. Si on peut avoir des réponses, je dirais à géométrie variable, mais il est normal que vous répondiez aux auditeurs. Je ne vais pas vous le reprocher.
Le professeur Calvin ayant donné l'autorisation de répondre,
je vais essayer de ne pas
en abuser, professeur.
Bonjour Pierre.
Oui, bon.
Vous nous appelez de Nîmes, dans le Gard.
Bonjour messieurs, merci de m'accueillir. J'ai une question pour Nicolas Sarkozy. Moi j'ai toujours voté à gauche. Et pour la première fois, sans doute, je voterai à droite pour Alain Juppé. Parce qu'il est plus rassembleur que Nicolas Sarkozy. Donc je voudrais savoir, Nicolas Sarkozy, dans son sens du sacrifice, n'avait pas l'intention de revenir. Il est prêt à se dédire et donc à revenir pour sauver son camp, pour sauver la France. Mais à l'évidence, moi je suis un vieil observateur de la vie politique, à l'évidence, Alain Juppé rassemble plus de la moitié des Français, et notamment dans le camp à gauche. Ce qui ne sera jamais le cas de Nicolas Sarkozy, on l'a bien vu, ni du côté du FN d'ailleurs, être déçu, et encore moins des voix de gauche.
Quelle est votre question à Nicolas Sarkozy?
Voilà, après avoir exposé cela, je voudrais dire donc à monsieur Nicolas Sarkozy, dans votre immense sagesse qui vous caractérise, dans votre humilité, vous pourriez quand même peut-être vous effacer pour plus rassembleur que vous, car à l'évidence, Alain Juppé prendra des voix à la gauche, notamment la mienne, et vous, vous ne les prendrez pas. Donc vous êtes plutôt la situation d'échec et Alain Juppé la situation de solution.
J'ai compris l'esprit de votre question, Pierre. La question qui vous est posée, Nicolas Sarkozy,
je ne suis pas
sûr. Pouvez-vous vous rallier au panache blanc d'Alain Juppé à un moment ou un autre?
D'abord, Pierre, merci de cette avalanche de compliments que je suis extrêmement sensible et je retiens l'extrême sagesse qu'est la mienne. C'est la première fois qu'on me dit ça, mais j'y suis très, très sensible. Pierre, je ne suis pas sûr qu'il y avait une question, mais enfin, je vais quand même essayer.
En fonction des circonstances, il y en a une. Pouvez-vous rallier à Alain Juppé à un moment ou à un autre?
Au fond, Pierre est dans le Gard, et m'explique qu'il a voté à gauche jusqu'à présent, mais qu'il va voter pour nos candidats dimanche prochain. Je l'en remercie, je l'en félicite. Je lui rappelle que ni Alain Juppé ni moi, nous ne sommes candidats dans le Gard, en l'état actuel des choses. Mais si son idée, c'est de voter pour les candidats de l'UMP parce qu'Alain Juppé, il a parfaitement
raison.
Il
pense à une autre élection,
Alain Juppé est un homme de grande qualité qui fait l'honneur de notre famille politique. Et dans notre famille politique, il y a plusieurs talents. Et bien que chacun y trouve son bonheur. Bienvenue à l'UMP, cher Pierre.
Mais en fonction d'un rapport de force qui favoriserait Alain Juppé, serez-vous à un moment donné capable de dire « je le soutiens et je me rallie à Alain Juppé ».
Alors là, ce n'est pas la question de Pierre, c'est la question du professeur Calvi. Mmh.
Et donc
je vais répondre, c'est une très bonne question.
Merci.
Le temps de la présidentielle n'est pas là. Nous organiserons des primaires à l'automne 2016 et nous serons tous réunis derrière celui ou celle qui sera le mieux en mesure de nous rassembler. Pour l'instant, c'est le temps du collectif et ma responsabilité de président de la famille, c'est de rassembler tout le monde autour d'un projet commun pour gagner les départementales, pour que ça change un département, puis gagner les régionales et après on choisira le meilleur. Et bien si le meilleur, c'est un autre, et bien c'est un autre. D'ailleurs, je n'ai pas dit d'ailleurs que moi-même, je serai candidat. Il n'y a pas d'obligation.
Sur la question du rassemblement que vous venez d'évoquer, Alain Juppé a dit hier soir que la seule alternance possible était celle de la droite et du centre. Vous avez dit exactement, vous avez tenu exactement les mêmes propos hier en compagnie du président de l'UDI, Nicolas Sarkozy. Mais sur le rassemblement de la famille, puisque vous venez de nous dire que c'était votre travail, regretterez-vous qu'il ait été sifflé lorsqu'il prônait une telle alliance il y a quelques semaines? On a même pensé que vous aviez initié ces sifflements.
Bon, enfin, pardon de rappeler ça, c'était 4000 personnes qui étaient venues à un meeting que je tenais à Bordeaux, dans sa ville. Que ce que vous voulez que j'initie de quoi que ce soit. Et je regrette toujours quand les gens de ma famille sont sifflés, on ne se siffle pas entre nous. Mais ce n'est pas sur le thème de l'alliance du centre et de la droite républicaine qu'Alain a été sifflé à ce moment-là, mais sur la question bien précise de Bayrou. La question n'est pas celle des centres. On est tous convaincus qu'il faut qu'il y ait une alliance de la droite républicaine et du centre. D'ailleurs, avec Jean-Christophe Lagarde, que je voyais hier, on a présenté des candidats communs dans 94% des cantons. La question de celle de M. Bayrou est différente. Il a dit lui-même, M. Bayrou, que s'il était député de l'opposition, il ne voterait pas la motion de censure. Donc, il ne se reconnaissait pas dans l'opposition. Il est donc parfaitement évident que dans le souci de clarté qui est le nôtre, nos électeurs, nos militants, nos responsables ne souhaitent pas faire une alliance avec quelqu'un qui est bien content d'avoir les voix de la droite et du centre pour gagner Pau, mais qui, dans un combat national, dit « moi, j'appartiens pas à l'opposition ». C'est tout. C'est pas un problème de stratégie, c'est un problème sur les déclarations de M. Bayrou. Si demain, M. Bayrou dit qu'il est dans l'opposition, ça posera pas de problème.
Bonjour, Hicham.
Oui, bonjour.
Vous êtes ingénieur, vous nous appelez de Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Nicolas Sarkozy vous écoute.
Bonjour, M. Calvi. Bonjour, M. le Président Sarkozy.
Bonjour, Hicham. Donc,
je suis Hicham, je suis ingénieur d'État. Ma femme est aide-soignante à fonction hospitalière. Donc elle se lève tous les matins à 5h30 pour aller au travail. Donc tous les deux, on est de confession musulmane. Nous avons deux enfants de bas âge qui vont à la cantine. Suite à vous dire sur les repas de substitution, je voulais que vous me donniez une réponse directe. Comment fait-on, nous, maintenant, tout en sachant qu'on est très bien intégrés, que tout se passait très bien pour nous, comment on fait maintenant pour nos enfants?
Hicham, merci de votre question qui est très directe et qui mérite une réponse directe. D'abord, comme vous le savez, la question religieuse était un sujet qui m'a toujours passionné et je ne vois pas au nom de quoi nos compatriotes musulmans ne pourraient pas vivre leur religion et la transmettre à leurs enfants. Donc de ce point de vue, Hicham, je n'ai rien d'autre à vous dire qu'il y a maintenant plus de 2000 mosquées sur le territoire de la République française. Et regardez notre pays, à vous et à moi, Hicham. Quand on voit comment les musulmans de France ont vu le nombre de leurs lieux de culte augmenter, et quand en parallèle on voit ce qui arrive aux églises chrétiennes en Orient, il y a beaucoup de gens qui se disent « c'est pas la même règle ». Mais c'est normal, nous sommes une république et nous sommes une démocratie.
Et Hicham vous demande comment il va faire manger son enfant à la cantine s'il n'y a pas de repas de substitution.
Mais Hicham, la république prévoit un enseignement public et un enseignement confessionnel. Dans l'enseignement public, il y a des règles de la république qui font aucun signe extérieur qui désignerait un enfant en fonction de l'appartenance religieuse de ses parents ou de lui-même. C'est la règle républicaine, Hicham. Nous ne sommes pas simplement une démocratie, nous sommes une république. Et la laïcité est un des fondements du temple républicain, si vous me permettez cette expression. Et nous ne voulons pas, un certain nombre d'entre nous, je ne dis pas qu'on a raison, mais nous ne voulons pas qu'il y ait la table des petits-enfants musulmans, la table des petits-enfants juifs, la table de tous les autres. Voilà. C'est pas ça l'école de la République. Ou alors, on est dans un autre système, Hicham. Si vous voulez, c'est parfaitement raisonnable que votre enfant vive la religion de ses parents dans le cadre d'une école confessionnelle. Dans sa sagesse, la République a prévu deux systèmes. Un système public, pas de signe extérieur d'appartenance et non religion. Un système privé, sous contrat, Hicham, hein, avec des professeurs qui sont d'ailleurs payés par l'État. Pour justement les familles qui ont un engagement religieux plus prononcé et qui veulent que leurs enfants puissent être éduqués comme ça. La question qui se pose, Hicham, c'est que...
On peut dire à Hicham, mettez vos enfants dans le privé, c'est ce que vous êtes en train de lui dire.
Non, hein. je suis en train de lui dire que l'école publique est bien sûr ouverte naturellement, mais qu'on ne peut pas changer les règles de la laïcité et de l'école républicaine en fonction des demandes de chacun par rapport à sa religion. Parce qu'Hicham, il y a quelque chose qui est plus élevé que nous, plus important que nous, qui est la République et ses règles. Alors, je dois dire une chose, c'est que les tensions sont si grandes, Hicham, et il y a tellement de sentiments d'injustice qui peut être ressenti par nos compatriotes musulmans du fait d'un amalgame scandaleux qui est fait entre des fous djihadistes et la religion que vous vivez paisiblement, que peut-être, Hicham, vous allez comprendre que c'est pas le moment de transiger avec les règles de la République et que chacun d'entre nous doit faire un effort pour revenir à l'idéal républicain et aux règles de la République. Vous savez pourquoi, Hicham ? Pour apaiser les tensions. Quand la règle n'est pas respectée, les tensions explosent. Voilà pourquoi j'ai cette position. Je suis tout à fait prêt à continuer à en débattre, y compris avec mes propres amis. Mais nous sommes nombreux à penser que la situation est suffisamment grave, qu'il y a assez de violence, qu'il y a assez d'intolérance, et qu'il faut qu'on se rassemble autour de quoi, Hicham ? Autour de l'idéal républicain. Musulmans, juifs, catholiques, agnostiques, athées, la République échappe. Toute la République. Rien que la République.
Bonjour Christian.
Oui, bonjour Yves Calvi, bonjour Monsieur le Président.
Bonjour Christian.
Bonjour, avant de vous poser ma question, je tenais à vous dire que je suis un soutien absolu de votre politique et que je souhaite ardemment que vous redeveniez Président de la République en 2017.
Et merci,
ma question
Christian.
Est la suivante. Quelle va être, au lendemain du second tour des élections départementales, votre stratégie pour endiguer la montée inexorable du chômage, ce mal endémique qui frappe la France depuis que François Hollande vous a succédé ? Merci.
Oh Christian, je sais, Monsieur Calvi et Christian, que c'est le jeu, en quelque sorte, de répondre rapidement. Mais vous rendez compte la question. Alors je vais essayer quand même de m'y mettre pour respecter nos auditeurs. Christian, ma conviction absolue, c'est qu'il existe une stratégie économique alternative. Nous ne sommes pas condamnés, les Français ne sont pas condamnés à l'augmentation inexorable du chômage. D'ailleurs, Christian, je vous demande de voir une chose. Le chômage a baissé ces trois dernières années en Allemagne. Il a baissé aux États-Unis, il a baissé en Grande-Bretagne, il a baissé en Espagne. Pourquoi serions-nous confrontés à cela ? Comment faire ? Comment imaginer une stratégie économique alternative ? Deux choses, Christian. La première, nous avons 57% de dépenses publiques par rapport à notre richesse nationale. Il faut baisser les dépenses, cela veut dire réduire...
C'est un quelconque rapport avec le chômage ?
Ah ben bien sûr, parce que quand la dépense est trop importante, elle doit être financée, cette dépense, par des cotisations qui pèsent sur le travail de ceux qui ont un boulot.
Deuxième point.
Voilà, c'est très important, il va falloir réduire le nombre des fonctionnaires, notamment dans les administrations territoriales, c'est absolument essentiel. La deuxième chose... Il faut tourner le dos à 100% à cette stratégie folle de pression fiscale sur les classes moyennes qu'ont décidé M. Hollande et Valls. 53 impôts de plus depuis 2 ans. 40 milliards d'impôts nouveaux. Ça pèse sur les classes moyennes. On rabote le quotient familial, on rabote les allocations familiales, on est écrasé avec l'IRPP, les cotisations sont si lourdes que nos entreprises ne peuvent pas faire concurrence avec les autres. Donc, en résumé, il y aurait bien d'autres choses à dire sur la suppression des normes, sur l'allègement du code du travail, sur la facilité de prendre des initiatives. Une autre stratégie économique existe, nous la mettrons en œuvre si vous nous faites confiance.
Merci Nicolas Sarkozy d'être venu répondre ce matin en direct aux éditeurs d'RTL. J'ai bien compris que vous nous aviez
ça
dit
tout à l'heure. Ça passe si vite, monsieur Calvi.
Oui, en effet, vous n'étiez pas candidat pour l'instant, en tout cas officiellement, à l'élection présidentielle en 2017.
J'ai une petite obsession, le professeur Calvi, mais non, mais ce matin.
J'ai cru que vous nous le disiez tout à l'heure.
J'ai bien entendu ce qu'a
voilà.
dit.
Oui. Non, c'est enfin, juste ça, une confirmation.
Ça, le témoin de bonne foi, Jean-Michel Apathy, venant au secours du professeur Calvi.
À deux contre un.
Oui, à deux contre un, ce qui est la règle. Mais allez, comme ce matin, je suis tellement bien reçu RTL, j'ai dit que ce n'était pas obligatoire, monsieur Calvi. Voilà. Mais je note votre regret et votre inquiétude. Je ferai en sorte de vous rassurer, monsieur Calvi. Je ne veux pas vous laisser dans un tel état d'angoisse. Hein. Vous vous rendez compte, si je n'étais pas candidat, ce que ça vous ferait?
Excellente journée à vous, Nicolas Sarkozy. Vous êtes le bienvenu
sur RTL. Les auditeurs ne savent pas que vous avez un grand sourire.
Ils peuvent le voir sur le site RTL.fr. Et dans un instant, c'est Pascal Praud qui sera mon témoin de moralité.
Ça s'améliore.